L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Vous êtes nombreux, nombreuses à avoir adoré l'épisode avec Frédéric Lopez, le 112, pour ceux et celles qui souhaitent l'écouter ou le réécouter. Et Fred, il était allé avec Thomas Pesquet chez les Indiens Kogi. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, je reçois Éric Julien, qui est le fondateur de Chendukua, qui est une association qui aide les Indiens Kogi. C'est un géographe et il s'est beaucoup intéressé à comprendre notre civilisation à travers le regard d'une autre civilisation. C'est assez rare et unique de pouvoir échanger avec une civilisation native, racine, et de regarder notre civilisation, de comprendre finalement la manière dont on vit à travers le regard d'autrui. Il n'y a pas d'autre manière ou d'autres meilleures manières pour le faire. Donc c'est un épisode qui est vraiment passionnant parce qu'il nous questionne, il nous permet de déconstruire des choses qui nous semblent évidentes, logiques et qui en réalité ne le sont pas du tout. Par exemple, de vivre dans un pays où il peut y avoir des guerres, ou l'importance du rôle de l'argent, etc., etc. Je vous laisse écouter cet épisode que j'ai trouvé vraiment incroyablement intéressant. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Je voudrais vous poser une question pour commencer qui est quasiment une question, je dirais, pas compliquée mais en tout cas étonnante en ce moment. Et je voudrais vous parler du mot enthousiasme. C'est quoi la racine du mot enthousiasme ?
Alors c'est un mot qui vient de loin et qui aurait voulu dire ou qui voudrait dire quelque chose comme traversé par Dieu. Mais comme Dieu est un petit peu connoté, en fait, on peut très bien le remplacer sans souci par traversé par la vie. En fait, être enthousiaste, c'est être reconnecté à la vie en soi. Et quand on arrive à être dans l'enthousiasme, on est dans la joie, on est dans une forme de légèreté. Et peut-être qu'on arrive à aborder les problématiques genre crise, par exemple, d'une manière un peu plus sereine.
Et c'est vrai que quand vous dites traverser par la vie, on a tendance à parler du mot environnement sans forcément réaliser que cet environnement, c'est nous. C'est comme si on parlait de notre corps et qu'il était à l'extérieur de nous. Il y a un peu de ça aussi, non, quelque part?
Bon, en fait, c'est comme si on vivait dans des petites boîtes. On vit beaucoup dans nos têtes, on est coupé de notre corps, notre sensation, on est très mental. Hein. Et puis ensuite, la deuxième petite boîte, c'est qu'on vit beaucoup en ville. On est à 85% des urbains dans les pays, entre guillemets, dit développé. Et après, il y a encore une autre grosse boîte et qu'on vit beaucoup dans nos croyances. Donc en fait, on est des gens enfermés un petit peu dans des petites boîtes et si on voulait retrouver le chemin de l'enthousiasme, il faudrait peut-être oser soulever les couvercles des trois petites boîtes.
Alors vous êtes allé à la rencontre d'un peuple racine ou en tout cas d'une autre civilisation que sont les Indiens Kogi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez appris majoritairement ou peut-être comment vous les avez rencontrés et qu'est-ce que ça vous dit de la manière dont on vit nous aujourd'hui?
Alors, comment je les ai rencontrés? J'étais jeune, j'étais gentil, j'avais 25 ans, je sortais de formation qu'on appelle les grandes écoles où on vous serine que vous allez faire partie de l'élite de la France. Donc quand on vous le serine pendant plusieurs années, vous finissez par y croire. Et on m'avait dit, au nord de la Colombie, à la plus haute montagne du monde, en bordure de mer, quand on est au sommet, paraît-il, on voit la mer des Caraïbes en bas, donc c'est 5900 mètres et 40 km plus bas la mer des Caraïbes. Donc à 25 ans, j'étais guide de montagne, j'ai voulu aller voir, vivre cette expérience. Et j'ai eu un œdème pulmonaire à 5000 mètres, c'est de l'eau dans les poumons, donc plus d'oxygène dans le sang. n'y a pas de douleur physique, mais vous ne pouvez même plus vous mettre debout. Vous n'avez plus qu'à attendre de l'eau dans les poumons, ça gagne dans le corps, et vous n'avez plus qu'à attendre de vous noyer de l'intérieur. Et donc j'étais perdu dans ma montagne, sans évidemment aucun moyen de secours, et j'ai eu la chance que ces Indiens, là, Kogi, ces sauvages, comme on les appelle, ces archaïques, ces primitifs, ces autochtones, on a du mal à les nommer, passent par là, et eu la gentillesse d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire, et me ramassent, me mettent sur une mule, me recueillent, me soignent et me sauvent la vie. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré ces Indiens. Alors, à l'arrivée des conquistadors en 1524, on estime qu'il y avait 1,5 million d'Indiens Tairona à l'époque, les ancêtres des Kogi actuels. Aujourd'hui, il en reste à peu près 25 000. Et en fait, ce serait la dernière société précolombienne encore en état de marche. C'est comme si on pouvait discuter avec des Incas, des Mayas, des Aztèques, sans forcément dire ils ont tort ou ils ont raison, c'est pas le problème. Mais on dit souvent que l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi, ou le regard de l'autre, pour peu que j'aie l'humilité de l'accepter, éclaire mes zones d'ombre, éclaire ce que je ne vois plus de moi. Donc, qu'est-ce que j'en ai appris ? Oh, plusieurs choses. Par exemple, je me suis intéressé, moi je suis consultant dans ma vie de tous les jours, et je me suis intéressé à... Finalement, quand on est consultant, on s'intéresse sur une entreprise à quelle est sa mission, à quoi elle sert. Mmh. Je me suis demandé à quelle est leur mission. Est-ce qu'ils se sont fixés une mission, ces Indiens ? À quoi ils servent ? Et j'en ai trouvé deux que j'ai trouvé intéressantes. La première, c'est soigner la terre. Voilà des gens qui consacrent une bonne partie de leur agenda, parce qu'au final, tout se résume à notre agenda, c'est-à-dire où est-ce qu'on affecte du temps. Et bien, ils en consacrent.